On a appris que le bébé, il a une malformation dans son petit ventre, que ça va lui empêcher de vivre. Malformation de quoi? De duodénum, madame. Déjà, pour prononcer malformation, on avait du mal. Ajouter le duodénum, on répétait toute la nuit pour apprendre ça.
Témoignage d'une mère qui adore son fils aîné, qui l'a couvé, chéri, surprotégé, poussé, admiré. Elle a mis son réveil à 4h du matin pour l'entendre présenter ses premiers flash info. Elle n'a rien manqué de son odyssée télévisée. Elle l'a regardé ébahi interviewer le président de la République à l'Élysée. Elle a dit « Merci la France pour tout ce que tu lui as donné ». Elle a dit merci à son fils de les avoir fait entrer là où jamais un couple de petits tailleurs grecs immigrés n'aurait imaginé pénétrer. Aujourd'hui, que le sujet est à la mode, on parle d'un transfuge de classe. Aujourd'hui, on parle de Nikos Aliagas, l'homme qui porte à l'écran les plus grosses machines de la télévision française. Sa gueule de métèque, comme disait Moustaki, la double culture en bandoulière, sa réussite crânement maîtrisée et probablement toujours quelque chose à prouver.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Δυο λόγια μόναχα
και ένα γλυκό
σ' αγαπώ.
Χαρά μου.
Bonjour Nikos Aliagas.
Bonjour Sonia, merci de m'accueillir sur France Inter ce matin.
Nikos, en vrai, un documentaire entier sur TMC, sur vous. On se demande quel est le Nikos en faux, mais on va en parler.
Je me suis posé la question.
Et TMC, c'est la chaîne de vos débuts. Ce sera en prime time. La Grèce que votre père a quittée, Nikos Aliagas, dans les années 60, on en parle rarement. Je me demande même si les Français s'imaginent à quoi ressemblait ce pays, la misère, l'ultra-violence politique qu'ont connu les Grecs.
La dictature, mon père part juste avant la dictature, mais c'est vrai que le climat en 1964 est difficile socialement. C'est un pays qui sort une décennie ou un peu plus d'une décennie auparavant d'une guerre civile. C'est un pays pauvre, c'est un pays européen, mais pas encore tout à fait, qui n'est pas dans la communauté européenne. Et mon père vient pour une vie meilleure en France, comme un petit ouvrier. Il arrive à la gare de Lyon. Et c'est comme ça que commence son rêve, mais il ne vient pas pour s'installer, il ne se donne pas ce droit. Il dit « je vais travailler quelques années, je repartirai pour ne pas déranger ». Ma mère arrive en chemin, ils se rencontrent sur les barricades de mai 68. Ils portent cette nostalgie permanente, cette Grèce, cette souffrance, ce manque, ce regard d'Ulysse, cet exil, on repartira. Et finalement, je nais en 69 et ils ne sont jamais repartis. Il est reparti pour mourir 40 jours plus tard, comme les éléphants qui repartent pour retrouver l'endroit où ils sont nés. C'était un peu ça, la vie de mes parents. Mais je porte tout ça aussi, alors que j'ai rien demandé.
Et quand vous étiez enfant et que vous parliez du pays, alors pour le coup, le pays était en pleine dictature des colonels.
Bien sûr.
C'était ce régime autoritaire qui a perduré jusqu'au milieu des années 70.
74.
Voilà, 74. Et comment s'informaient vos parents? Comment ils étaient reliés au pays? Est-ce qu'eux, ils étaient politisés?
J'ai une image extraordinaire qui est celle de mon père qui essaie d'écouter les radios libres, il y en avait quelques-unes à l'étranger, en Europe notamment, sur Deutsche Welle, mais aussi à Radio France Internationale,
oui,
qui donnait la parole à des Grecs en dehors du pays, qui donnait des informations. En fait, et j'ai cette image de mon père au-dessus d'un vieux poste Grundig, pardon de citer la marque, qui essayait d'avoir sur les ondes courtes, avec un fil et un cintre, un peu de voix grecque. Et quand on entendait dans notre petit appartement du 10e, les grésillements, et ici la voix, tout le monde pleurait.
Ouais.
Voilà, c'est ça l'image que je retiens de mes parents. Et puis, les amis qui passaient à la maison, d'autres tailleurs, ou parfois quelques intellos, des poètes qui passaient, parce que c'est vrai que
Il faut dire qu'il y a eu toute une diaspora grecque.
En France.
Ouais.
extraordinaire, vous avez raison de le rappeler.
Et les Grecs se sont enfuis, littéralement enfuis.
Bien sûr, politiquement, artistiquement, Paris a été un vivier et a été un creuset où on a vu effectivement ceux qui, après la chute de la dictature, ont pris les choses en main, ont trouvé l'inspiration à Paris, comme Mélina Mercouri. Mm. Mélina était à Paris, et puis plein d'autres artistes. Donc, mes parents n'avaient pas la carte de ce monde-là. Mais pour autant, dès qu'il y avait une fête, où je me souviens, à la salle de la Mutualité, quand Théodorakis, qui est mort il y a quelques mois, faisait des concerts, mon père m'emmenait par la main et me disait « c'est ça, ta musique
». Voilà. Donc, Mikis Théodorakis, qui était un immense poète, poète grec.
Et compositeur.
Vous avez grandi, Nikos Aliagas, dans une double culture assumée et même forcenée. Mm-hmm. À 15 ans, vous êtes sur un plateau télé dans cette émission que j'adorais quand j'étais petite. C'était Croque Vacances.
Vous le regardiez aussi.
Mais oui. Vous êtes là à 15 ans, très mal à l'aise et tout ça, dans un costume folklorique et vous chantez.
À l'occasion des fêtes, comme un petit peu partout, il y a des chants traditionnels. On peut en avoir un tout petit extrait.
Oui. Ça s'intitule « Kalin esper anarchodes », qui veut dire « Bonsoir, Seigneur ».
Et c'est comme ça que je découvre qu'il y avait à Châtenay-Malabry un pensionnat orthodoxe.
J'ai grandi de 9 ans à 18 ans à Châtenay-Malabry. Mes parents m'ont envoyé là-bas pour que je puisse apprendre le grec. Mmh. Parce que mon grec était un grec oral et n'était pas suffisamment sérieux et écrit. Parce qu'ils pensaient toujours au scénario du retour. C'est qu'à un moment, on va revenir au pays, il faut que ce garçon il passe son bac, il fasse des études là-bas. Donc il fallait que je sois prêt.
Mais c'est incroyable parce qu'il y a quand même vraiment deux catégories d'enfants d'immigrés. Ouais. Il y a ceux à qui on ne parle pas la langue des parents. Mmh. Il y a ceux qui grandissent avec une rupture complète avec le monde d'avant.
C'est vrai.
Le pays arraché, le pays renié, le pays oublié, le pays
qui
interdit.
A fait mal.
Voilà, exactement.
Qui a fait mal.
Et vous, c'est tout l'inverse.
C'est tout l'inverse parce que mon père, je vous l'ai dit en début de cet entretien, considérait qu'il n'était pas légitime en France. C'est pas qu'il n'aimait pas la France. Il venait pas faire son petit business et repartir. Il se disait, mais on va pas nous garder longtemps. C'était par complexe, peut-être, alors que la France nous a tout donné. A accueilli mes parents et m'a donné la même éducation qu'un Français de souche. Et c'est possible. Quand je suis à Châtenay-Malabry, je vais au lycée français la journée. Je vais au collège comme tout le monde, au lycée, je passe mes deux bacs, en fait. Mais je suis pas dans une niche communautaire où on ne vit qu'avec nos codes. C'est-à-dire qu'on est totalement intégré, je suis totalement français au quotidien. Mais on me donne la possibilité de garder aussi mes racines culturelles et de
faire. Votre père, il met un point d'honneur. Vous ferez des études en France et vous serez diplômé à la Sorbonne, tout en coupant des dépêches à RFI, la nuit, la radio, qu'écoutait votre papa pour entendre des voix grecques. Mmh. Et puis, vous répondez à un casting, vous rencontrez Christine Bravo. Ça m'a vachement frappé ce qu'elle vous demande au départ.
Je me souviens d'avoir eu une grande déception parce que il a commencé à me parler avec un français impeccable. Et je lui ai dit, mais ça va pas du tout. Il n'a pas d'accent. Je lui ai dit, mais vous pouvez prendre l'accent? Il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que c'est? Et là, il s'est mis à me parler et il a pris l'accent grec. Et donc, je me suis dit, bon, il prendra l'accent grec à chaque émission.
Je pense que tout le monde ne mesure pas ce que ça signifie. Prendre l'accent grec, ne pas être le grec de service, ou alors accepter de jouer le grec de service.
C'est très intéressant parce que ça met le doigt aussi sur le problème de l'identité.
Totalement.
C'est-à-dire que mes parents, quand ils venaient me chercher à l'école, parlaient avec un accent. Mes camarades de classe, Lucien, Jean-Paul, avaient des parents qui n'avaient pas d'accent. Pour autant, avais-je le droit aussi de vivre comme un Français de souche alors que mes parents venaient d'ailleurs? La réponse est oui, mais il faut du temps pour l'accepter. Mmh. J'étais pas dans un melting pot identitaire de franco-grec qui sait pas trop, une nébuleuse, qui est étranger partout. C'est-à-dire qu'évidemment, certains me disaient t'es un étranger, que ce soit ici ou en Grèce, parce qu'en Grèce, on me disait tu es français. Mais moi, je savais que j'étais l'un et l'autre. Deux entités qui pouvaient coexister. Et c'est vrai que l'histoire de l'accent, ma mère, elle parle avec son accent, on l'a entendu tout au début.
Sauf qu'il y a savoir au fond de soi qu'on est l'un et l'autre, qui on est.
Exact.
Et il y a, comment dire, Nikos Aliagas, en faux ou en vrai, à vous de nous dire, il y a le Nikos Aliagas que vous allez façonner petit à petit à la télévision française.
Oui, alors je crois que ce titre...
C'est une image publique, c'est oui. un personnage
oui,
à l'écran.
Oui, et en même temps, je ne dis pas à l'écran, vous savez, ma mère vient d'ailleurs et mon père, pendant la guerre en 38, n'avait qu'une chaussure, il ne parlait pas français. Vous savez, mes grands-parents, moi, ils n'ont rien à voir avec la France. Ils vivaient face à la mer, en mer ionienne. Mmh. C'était une autre culture. C'est comme finalement, moi, je parle de la Grèce aujourd'hui, mais c'est comme si un Marseillais arrive en ville et il devient un autre et il laisse l'accent de ses Marseillais ou Corse. Et finalement, il ne devient pas un autre. Il se donne juste le droit de choisir sa vie. Mmh. Et j'ai choisi ma vie. J'ai choisi de rester en France, même si à un moment je suis allé faire le 20h à Athènes. Et j'ai choisi de garder mes deux cultures parce que ça ne posait de problème à personne.
C'est moi qui... moment...
J'ai ouais. eu le complexe, moi, en arrivant sur TF1. Je me dis, mais est-ce que... Pardon, mais pourquoi j'intéresserais Étienne Moujotte qui me laisse un message alors que je ne suis que le chroniqueur grec? En quoi je suis légitime pour parler aux Français en tant que présentateur, alors que je représente juste la culture grecque dans une émission sur l'Europe? Je me suis posé cette question. Et puis finalement, ça n'a pas posé de problème, ni à Moujotte, ni aux téléspectateurs, visiblement.
On écoute vos débuts à la Starac, puisque c'est pour la Starac oui. que Moujotte vous a fait venir. En fait, non, il vous a d'abord fait venir...
Pour un doc.
Et puis finalement, ça s'est pas fait. Et puis finalement, ce sera la Starac. La Starac... Faut se rappeler quand même l'OVNI que c'était, c'est les Bien débuts sûr. De la télé-réalité, M6 avait fait le Loft, Patrick Lelay avait dit alors là, le temps de cerveau disponible, nous jamais. Et en même temps, c'est de la télé-réalité d'enfermement. Bon bref, les débuts, c'est une catastrophe.
Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue en direct sur TF1 pour ce nouveau rendez-vous de Star Academy, c'est à vous. Voilà, c'est ensemble qu'on va faire cette émission. Star Academy, c'est une école, et après 3 mois d'apprentissage, un seul élève deviendra une star. Le lauréat signera un contrat d'1 million d'euros, c'est-à-dire plus de 6,5 millions de francs, s'il vous plaît.
C'est la voix qui va pas.
Ben oui, je sais pas comment la placer, je crie. Ça, il faut une vie pour apprendre à placer la voix à la télé. C'est-à-dire qu'on crie parce qu'on ne s'entend pas, parce qu'il y a du monde, et puis on a l'impression que plus tu te donnes, plus tu fais l'animateur, et en fait, ce que t'apprends le temps, au bout de 20 ans, c'est qu'il faut pas faire l'animateur, il faut juste accompagner. Et il faut juste raconter une histoire, et non pas essayer de prouver quoi que ce soit. On ne vend pas le rêve à la télé. Moi, j'y crois pas. On le partage. Et pour le partager, faut le connaître, faut savoir pourquoi. Mais j'ai appris, ça a été une école formidable.
Oui, ça a été une école
qu'est-ce
extrêmement
que j'ai pris
douloureuse
mais
au
qu'est-ce
départ.
Qu'est-ce que j'ai pris? Je pensais même pas finir
donc
la semaine.
Donc la presse vous étrille.
C'est vrai. Mmh. C'est vrai
et vous renvoie à ce sentiment d'illégitimité.
En quelque sorte. Et en même temps, c'est là où arrive ma petite maman d'un mètre 49. Non, 1m50. et qui me dit, mais pour qui tu te prends? Est-ce que tu mesures la chance? Regarde où tu es. Et tu te plains déjà? Ça n'existe pas dans la famille. Pense à tes grands-parents qui ont fui le fascisme, qui ont combattu voilà la pauvreté, l'injustice, et toi t'es
et
là.
Va jusqu'au bout.
Finis ton travail, arrête de te plaindre. Et c'est le leitmotiv de ma famille aussi. Finis ton travail, finis ce que t'as commencé. Pourquoi ils t'ont mis là? Pourquoi ils t'ont proposé ce poste? Ben pour que tu joues au foot, quoi. C'est un match, c'est un championnat. Et tu te plains déjà? Alors finis. Et j'ai fini.
Et ça s'est très bien terminé. Voilà. Ça s'est très bien terminé, c'est-à-dire que le début de la première saison est un bide, un flop, les
oui,
audiences, etc.
Les quatre premières semaines sont difficiles et ça se termine.
C'est long, 4 semaines.
Ah ben c'est long pour un inconnu. En plus, j'arrive du grand public, ouais. La presse, etc. Et on finit à 14
millions. Et puis, il faut se rappeler qu'en 2002, la télévision a beaucoup d'importance.
Bien
on
sûr.
En parle tous les matins à la machine à café, en bien arrivant sûr. Au bureau et au lycée.
Il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas tout ça.
Voilà, c'est ça. Ça termine à 12 millions, donc évidemment, c'est un hit phénoménal et puis ça va durer plusieurs années. Il y aura un petit creux après,
bien sûr.
À la fin de la Starac.
Bien sûr, en tout cas pendant ces années, moi j'ai appris un métier. C'est que j'ai appris l'animation, je ne connaissais pas, j'étais journaliste. Donc j'ai appris que ça ne s'improvisait pas, que c'était pas aussi facile que ça avait l'air. Et surtout, quand on a fait 12 millions, je me souviens c'était 14 millions en pointe, et celle-là je l'oublie pas, on m'a pas attribué nécessairement le succès. On disait oui, il était là, il était au bon moment. Mmh. Après, il faut prouver, il faut construire ton chemin. Mmh. Et c'est là où tu arrives, non pas à construire un personnage télévisuel, mais et j'aime pas le terme place. On se fait pas une place à la télé. On est de passage comme les autres, mais au moins on essaie d'être soi-même. Et c'est là où, petit à petit, j'ai pas essayé de faire comme on me disait nécessairement, et juste d'être cohérent entre le propos que je ressentais et ce que je devais faire aussi pour l'émission.
Et quand l'émission s'arrête, après autant de succès, ça redevient un échec. Mais moi, je trouve ça intéressant de parler des échecs.
Mais il en faut. Alors, ce ne sont pas des échecs au sens fin du monde, parce qu'il y a des choses plus graves, mais ce sont des remises en question. Mm. Moi, en 20 ans sur TF1, je ne garderai que mes remises en question presque intrinsèques et philosophiques. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce qui est à toi? Qu'est-ce qui n'est pas à toi? Et où est-ce que tu veux aller? Peu importe ce qui va arriver, peu importe le
nombre de succès. Il y a eu une année aussi extrêmement difficile, l'année où vous avez pris la matinale d'Europe 1, ce qui était quand même hyper courageux, parce que ça faisait très très longtemps que vous n'aviez pas fait de l'actu, pure et dure, de l'info pure et dure. La station était déjà sur sa pente descendante. Vous prenez la matinale d'Europe 1 et là vous en prenez plein la gueule.
Oui, et en même temps, ce n'était pas aussi difficile que ça, parce que j'étais à Europe depuis...
Vous redevenez une voix aussi, Nico Saliegas.
J'en avais besoin.
Vous redevenez une voix. Terminez l'image.
J'en avais besoin.
Le maquillage, le public, la lumière.
Et pourtant, on est filmé comme ici, parce qu'aujourd'hui, on filme à la radio, même si je ne suis pas adepte de la caméra à la radio. Mais pour autant, j'avais besoin de revenir à la source. J'étais là depuis 10 ans, et j'avais besoin de revenir à la source et de revenir, effectivement, aux infos. C'était, je savais que j'étais dans des tempêtes, mais en même temps, c'est parce que j'en avais besoin que j'y suis allé. Mm. Il faut pas, il y a rien de pire que
et
de penser.
Et ça a fait mal.
Non, ça m'a fait du bien, en vrai, avec un peu de distance. Ça veut dire quoi, faire mal? Ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis de revenir à l'essentiel de mes besoins. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu veux le faire, qu'est-ce qui t'en empêche, en vrai? Je suis pas sorti comme un voleur, hein. Je suis pas sorti comme... Au contraire, je suis sorti au bout de 10 ans avec beaucoup de fierté, et j'ai laissé l'antenne, me semble-t-il, avec beaucoup de dignité et une rédac qui était encore forte. Donc, j'ai aussi appris, et ça m'a permis aussi de revenir à la peur du débutant. Mmh. Il n'y a rien de pire dans nos métiers médiatiques lorsque tu considères que tout ça, ça t'appartient, que tu es sur un fauteuil et que tu comptes les années, que tout sera génial. Ça n'existe pas. C'est le début de la fin en général quand tu penses que ça y est, t'arrives nulle part.
Et savoir où placer sa voix.
La voix ne pas perdre la voix, c'est sûr. C'est sûr. Je viens de la voix.
Bah c'est ça, on regarde votre histoire. Regarde votre histoire, c'est une histoire de transfuge de classe, c'est quelqu'un qui a transcendé complètement son milieu social, c'est quelqu'un qui porte l'héritage de ses parents et qui a cherché sa voix et sa voix. Et c'est souvent passé par la voix chez vous.
Et a donné de la voix à ceux qui étaient là avant moi. À leur prêter, les faire exister. Écouter mes parents chanter tout à l'heure, ou ma mère parler. Cette petite maman qui n'a jamais rien demandé, qui n'a jamais cherché à être devant la lumière. C'est la première fois qu'elle prend la parole dans le documentaire ce soir. Et en même temps, comme elle a pas les codes, elle a pas le vice du marketing, de parler, elle parle comme dans la vie. Et ça me touche, ça m'émeut de voir ma mère. Et même, je me dis, mais maman, qu'est-ce que tu fais dans le petit écran?
Vous passez votre temps à imiter son accent. Ouais. Merci beaucoup, Nico Saliegas. Alors, The Voice reprend la voix.
On est en plein tournage. Hier soir, on était en studio. Hier soir, la voix, elle est là, la voix. Vous avez raison.
Exactement, encore la voix. Ça reprend samedi soir. Et TMC, ce sera Nikos en vrai. Et en prime time, c'est la fin.
Vous savez comment on dit la voix en grec?
Non.
Bah vous le savez, mais phonie.
Ah bah oui, forcément.
Voilà, et phonie.
Merci.
Parakalo, Sonia.
Yassou Ali Rebeyi.
Bonjour.
Picanis.
Vous parlez vraiment grec, c'est hallucinant. Ah, je suis impressionné.
Faut-il vraiment rechercher la perfection dans le couple? Je vous pose la question, Sonia De Villers, et je la pose aux auditeurs. N'hésitez pas.
Non,
Nikos, est-ce qu'il faut rechercher la perfection dans le couple?
Il faut rechercher l'équilibre.
Voilà. Et l'équilibre, c'est faire avec beaucoup de choses imparfaites.
Ouais, on fait tout ce qu'on veut.